t'as jamais vu une femme qui se bat.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission À cœur ouvert sur Micro Rebelle. Nous sommes le jeudi 10 mars en direct du lycée agricole de Radingan en compagnie de Ophélie, Camille, Zoé, Amy, Sacha, Léna, Clara et Victoire. Une dédicace à Sacha qui a participé à l'atelier mais qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Cette émission radio est réalisée dans le cadre du festival Battement d'ailes. Madame Pelletier, expliquez-nous en quoi consiste le festival.
Bonjour à tous. Donc, ce festival Battement d'ailes est un festival féminin, pluriel et culturel à destination des jeunes du lycée et du Haut Pays du Montreuilois. C'est un festival qui a démarré en mars 2020 sous l'égide de Haut les Femmes et qui a été impulsé par 4 élèves qui s'étaient interrogés sur leur place en tant que jeunes femmes en rural, en filière sapate et dans un lycée agricole. L'objectif de ce festival est de faire réfléchir les jeunes et les moins jeunes aussi sur les droits des femmes, ceux acquis, ceux encore pas tout à fait établis aujourd'hui dans le monde, les inégalités persistantes encore aujourd'hui, au travers de différents dispositifs comme une exposition, du théâtre, du cinéma, de la radio. On le propose donc aux jeunes du lycée et puis aussi au territoire. On travaille très étroitement avec l'association À Petits Pas, ce depuis 10 ans, pour l'organisation donc des différents événements du festival. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le Facebook de l'établissement et aussi sur le Facebook d'À Petits Pas.
Aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets en rapport avec ce que vivent les femmes, la contraception, la grossesse et le viol. Tout de suite, je laisse la parole à Ophélie et Camille pour leur première chronique.
Merci Victoire. Oui, en effet, on va parler de la contraception, un sujet qui est peu abordé à notre sens et nous avons voulu savoir si les personnes étaient bien informées et pour cela, nous avons réalisé une enquête au lycée. L'enquête prend la forme d'un micro-trottoir. Nous avons posé 3 questions aux élèves et une personnelle de l'établissement. Nous allons vous les faire écouter. Prenez-vous un moyen de contraception? Si oui, lequel?
Oui, le stérilet.
Bah, le préservatif.
Bon, on n'en prend pas, nous, on aime les gosses ici.
Quel est ton moyen de contraception?
Les préservatifs.
Pilule?
Bah, le préservatif.
La pilule. Est-ce que tu prends un moyen de contraception?
Non.
Connais-tu d'autres moyens de contraception?
Oui, évidemment, j'en connais déjà plusieurs et j'en utilise, bah, logiquement, oui. Déjà, le préservatif, forcément. À part ça, logiquement, j'ai rien d'autre, moi, à ma connaissance. Du coup, pour vous, les filles, tout ce que je connais, c'est l'implant et la pilule.
Connaissez-vous d'autres moyens de contraception?
Oui, bien sûr, le préservatif, les implants, le stérilet, il y a 2 sortes de stérilets, les pilules contraceptives et aussi, pour les hommes, la vasectomie.
La pilule et aussi la faire stériliser.
La pilule, le stérilet, bon, c'est pour vous et tout, quoi. Est-ce que tu connais d'autres moyens de contraception?
La pilule et c'est tout pour ma part.
Préservatif.
Pilule.
Implant.
Les préservatifs.
Les préservatifs, les pilules, les... je sais plus comment ça s'appelle. Des filles peuvent utiliser des implants. Des implants, et après je m'en rappelle plus.
Oui, le préservatif et le stérilet.
Bah alors je sais qu'il y a la pilule, le stérilet, si je ne dis pas de bêtises, et l'implant aussi.
Est-ce que tu es à l'aise pour en parler avec tes proches?
Bah ouais, je vois pas l'intérêt de ne pas vouloir en parler, je veux dire, ça me paraît naturel. Pour moi c'est normal de parler de ça avec ses parents, ou même avec sa famille, ça fait partie de la vie, c'est tout.
Êtes-vous à l'aise pour en parler avec vos proches?
Oui, ça ne me dérange pas.
Bon, oui, pas de problème.
Oui, clairement.
Est-ce que vous êtes à l'aise pour en parler avec vos proches?
Oui, oui.
Oui?
Oh oui, parfaitement.
Oui, ça va.
Est-ce que t'es à l'aise pour en parler à tes proches ou pas?
Ah oui, ça me dérangerait pas.
Dans ce micro-trottoir, nous avons constaté que les moyens de contraception les plus connus sont la pilule et le préservatif. La plupart des personnes n'ont pas de difficultés pour en parler avec leurs proches.
Suite au micro-trottoir, nous avons interviewé M. Jourdan, l'ancien infirmier du lycée, pour en savoir plus.
Donc bonjour, je suis Olivier Jourdan, je suis l'animateur coordinateur national des infirmiers de l'enseignement agricole public.
Qu'est-ce que la contraception pour vous ?
Alors la contraception, c'est un moyen qui est mis en place et qui est à la disposition soit d'un couple, soit d'une personne, afin de ne pas avoir d'enfant.
Citez les différents moyens de contraception.
Alors les moyens de contraception, ils sont multiples. Hein, ils sont soit destinés à l'homme, soit destinés à la femme. Pour les moyens de contraception pour les hommes, on a les plus basiques, hein, qui est le retrait. On a ensuite le préservatif, la stérilisation. Et on entend, depuis ces derniers temps, on entend parler aussi de l'anneau contraceptif. Concernant la contraception des femmes, elles sont de plusieurs types. Hein. Vous avez tout ce qui est contraception par rapport aux hormones. Vous avez aussi les préservatifs féminins. Vous avez les stérilés, hein, ou les dispositifs intra-utérins, qu'ils soient avec ou sans hormones. Vous avez les crèmes spermicides. Vous avez aussi la stérilisation aussi chez la femme et aussi des injections intramusculaires.
Sont-ils tous fiables et sont-ils dangereux ?
Alors, ils sont fiables, tout dépend s'ils sont vraiment bien utilisés. S'ils sont bien utilisés, ils sont fiables, pour la plupart d'entre eux, hein, quand ils sont au niveau des hormones, au niveau des préservatifs, au niveau des stérilés, si vraiment toutes les indications sont respectées. Il y a des bémols, hein, bien sûr, par rapport, admettons, la méthode du retrait chez l'homme ou l'anneau contraceptif. C'est là où on a une fiabilité qui est nettement moindre. Par rapport à la dangerosité, toujours pareil, hein, si c'est bien utilisé, la dangerosité, elle est limitée. Un petit bémol quand même par rapport aux hormones à utiliser.
Selon vous, est-ce normal que tous les moyens de contraception ne sont pas remboursés par les caisses ?
Alors, par rapport au remboursement des contraceptifs, la plupart sont remboursés quand même par rapport et sont pris en charge à 100% pour vous les jeunes. Et ceux qui sont remboursés sont les plus fiables.
Pour vous, y a-t-il un âge pour prendre un moyen de contraception ?
Alors, il n'y a pas d'âge requis. Le tout, c'est d'avoir une vie sexuelle. Dès qu'on a une vie sexuelle, la mise en place d'une contraception peut être possible.
Est-ce que la contraception est que pour les filles ?
Alors bien sûr que non. Comme je vous l'ai rappelé, la contraception, ça doit être mis aussi en place au niveau d'un couple. Et donc oui, les hommes doivent participer et peuvent participer à la mise en place d'une contraception.
À qui demande-t-on des renseignements sur la contraception ?
Alors, les renseignements, pour vous, ici, au sein de l'établissement, vous avez accès, bien sûr, à l'infirmière scolaire, hein, qui est présent sur site. Vous avez aussi possibilité de prendre des renseignements auprès des centres de planification. Vous avez aussi votre médecin traitant, qui peut être aussi un de vos référents. Un adulte de l'établissement, je pense aussi parfois aux assistants d'éducation qui peuvent bénéficier de formations, hein, notamment des centres de planification. Donc voilà, un adulte peut vous renseigner et ou vous orienter vers un professionnel.
Est-ce que pour vous, les jeunes sont assez informés ?
Je l'espère qu'ils sont assez informés. C'est de l'information, c'est là aussi de la prévention, de la formation. On parle de la contraception, mais je pense qu'il faut aussi parler plus globalement de vie amoureuse, de relation à l'autre, de respect aussi, hein, de prévention des infections sexuellement transmissibles. Donc je pense aussi qu'il faut ouvrir cette information, il faut continuer à faire de la prévention.
Est-ce que pour vous, il y a des idées reçues ?
Les idées reçues, alors les idées reçues, on en a parlé un petit peu brièvement. Les idées reçues, c'est que la contraception ne concerne que les filles, que s'il y a une grossesse, c'est à elles de se débrouiller, etc. Ça, ce sont des idées reçues.
Pour plus d'informations, nous vous proposons des numéros comme le CPEF de Saint-Paul-sur-Ternoise au 03 21 21 62 33. Merci pour votre écoute. On vous laisse avec Léna, Sacha et Clara.
Merci les filles, c'était un extrait de musique intitulé I Am Woman d'Amy Melly.
Le sujet que nous allons aborder porte sur les grossesses. Nous avons eu la chance d'avoir pu interroger des personnes du lycée et de leur poser des questions dans le cadre d'un micro-trottoir.
Sur la grossesse précoce et sur la grossesse après 40 ans.
Bah après, c'est le choix de tout le monde. Enfin, je veux dire, si une personne a envie d'avoir un enfant à 16 ans, il a envie. Mais après, ça dépend aussi des parents, si ils veulent ou pas. Enfin, je veux dire, si on est mineur, ça dépend aussi des parents, enfin, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis.
D'accord. Et celle après 40 ans ?
Bah, personnellement, je trouve que c'est un peu vieux pour une personne parce que l'enfant ne pourra pas profiter de ses parents qui seront un peu âgés.
Quel est votre avis sur la grossesse précoce et sur la grossesse après 40 ans ?
Alors, sur la grossesse précoce, je dirais que pour avant de commencer une grossesse, il faudrait se sentir déjà prêt parce que avant d'être maman, il faudrait déjà se sentir prêt parce que c'est quelque chose, éduquer un enfant, tout ça. Après 40 ans, pourquoi pas ? Bah, on n'a qu'une vie, il faut en profiter un maximum.
Alors tout d'abord, il y a des risques pour que l'enfant soit handicapé.
Alors une grossesse à 16 ans, bah, tout dépend des responsabilités que l'on prend, que ce soit vis-à-vis des parents et du reste.
Bah, faut en parler avec ses parents, faut faire attention, quoi. Je sais pas, c'est jeune pour avoir un enfant.
Bah, c'est trop jeune, t'es encore dans les études, donc...
Ouais, c'est jeune, mais bon, après, si tu te sens capable d'avoir un enfant et que t'en es capable, ouais, pourquoi pas, en vrai.
Et sur la grossesse après 40 ans ?
Bah, si les parents sont encore capables de gérer leur enfant et c'est pas trop vieux, quoi.
Ouais, je pense que ça peut être dangereux, mais en vrai, genre, pourquoi pas.
Bah, je pense que la question de la grossesse, c'est pas à moi de juger la question de la grossesse, le plus important est de savoir si la femme en question souhaite avoir un enfant ou non.
La question de la grossesse précoce, à mon avis, c'est juste une question morale. C'est comment derrière on puisse donner la possibilité à cette personne de vouloir garder l'enfant ou pas et de respecter tout simplement sa volonté. Sur la grossesse après 40 ans... Je pense que c'est toujours la même chose, hein. C'est aussi un point de vue moral. Est-ce qu'on accorderait le droit à quelqu'un de 40 ans de pouvoir enfanter dans l'idée qu'elle puisse élever convenablement et normalement sa progéniture ?
C'est difficile d'avoir un avis là-dessus. En fait, je pense que l'âge ne doit pas être un critère. C'est-à-dire que une femme a le droit d'avoir un enfant à n'importe quel âge. Le plus important en soi, c'est de savoir dans quel cadre va être éduqué l'enfant. Donc après, que l'enfant ait des parents qui soient âgés ou non, le plus important, c'est de garantir une sécurité à l'enfant. Je pense que le fait d'avoir un enfant après 40 ans est tout à fait le même droit qu'avant ou après. Enfin, en soi, ça n'a, pour mon sens, aucune importance.
C'est pas une bonne idée d'avoir une grossesse précoce. C'est-à-dire que si on a si on est vraiment très très jeune, on n'est peut-être pas à même de pouvoir s'occuper d'un enfant correctement. Donc il faut peut-être faire un petit peu attention quand on est dans ces âges-là. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait peut-être une meilleure information donnée aux jeunes concernant ce genre de problème.
Et sur la grossesse après 40 ans ?
Alors ça dépend ce qu'on appelle après 40 ans. Si c'est à 40 ans ou presque à 40 ans, pour moi c'est pas gênant, dans le sens où une femme qui a plus de 40 ans, un tout petit peu plus de 40 ans, ça va le faire. Si elle a les moyens de s'occuper de l'enfant, etc. Et maintenant avec les progrès de la médecine, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes à ce niveau-là. Après, bien sûr, y a quand même un âge peut-être... Par exemple, si une femme de 60 ans fait tout pour avoir un enfant, ça peut devenir un petit peu problématique, à la fois pour la femme et pour l'enfant.
Quel est votre avis sur la grossesse précoce ?
Bah, je trouve que c'est un peu jeune, mais après, si la personne elle le veut, moi je suis personne pour juger de ça, quoi.
Et sur la grossesse après 40 ans ?
Bah, c'est pareil, ils font ce qu'ils veulent, les gens, en fait.
Quel est votre avis sur la grossesse précoce ?
Alors mon avis sur la grossesse précoce, c'est que c'est individuel en fait, c'est le choix de la personne. Si la personne souhaite avoir une grossesse précoce, c'est son choix. Et je respecte son choix, une fois qu'elle a choisi.
D'accord. Et sur la grossesse après 40 ans ?
Eh bien, sur la grossesse après 40 ans, c'est la même chose. Une fois que si les gens ont bien conscience des risques qu'ils prennent et si ça répond à un choix de vie, un choix de procréer, je respecte aussi le choix des gens.
Quel est votre avis sur la grossesse précoce ?
Bah, en tant que soignant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne doit pas avoir d'avis, on doit soigner et accompagner et on ne doit pas émettre un jugement là-dessus, donc je ne peux pas vous dire mon avis sur ça.
Sur la grossesse après 40 ans ?
C'est la même chose, donc il faut juste savoir qu'il y a des risques et pour la maman et pour le fœtus quand c'est trop tôt ou quand c'est trop tard, voilà.
Ben, c'est très très jeune, oui justement, 16 ans c'est très jeune. Hein. Déjà pour assumer, pour être maman, vous êtes juste ado. Donc je pense que c'est pas sérieux d'avoir un enfant à 15-16 ans. 40 ans c'est un risque. Moi j'ai été maman à l'âge de 35 ans pour la troisième fois. Bon j'ai assumé parce que bon, j'étais faite pour ça quoi. Faut ça déjà savoir qu'il faut déjà avoir l'instinct maternel pour pouvoir être maman. C'est pas un jeu d'être maman. Avoir un enfant c'est des responsabilités, voilà.
Quel est votre avis sur les grossesses précoces ?
Tout d'abord, précisons qu'une grossesse précoce concerne les personnes âgées de moins de 20 ans. Une femme peut avoir des enfants à n'importe quel âge. Il faut qu'elle se sente prête. On ne fait pas d'enfants pour s'amuser. Il faut savoir aussi qu'il y a des risques pour la santé dans le cas de grossesse précoce, tels que la mortalité maternelle liée à la grossesse ou l'accouchement, le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles et de développer des dépressions.
Et sur les grossesses après 40 ans ?
Il y a des risques de mortalité aussi et de développer des maladies telles que le diabète gestationnel et l'hypertension artérielle gravidique. Dans ce cas-là, il est conseillé d'être plus suivi par un médecin.
Quel est votre avis sur l'avortement ?
Bah, je dis que c'est le choix de chaque personne, donc chacun décide ce qu'il a envie, s'il a envie d'avorter ou pas.
L'avortement, je dirais c'est un peu... La dernière solution aux bêtises, on va dire, c'est si jamais ça arrive malheureusement, c'est un peu dommage à dire, mais c'est la dernière solution. Bon, je suis quand même favorable à l'avortement.
En fait, je suis pour et je suis contre l'avortement. Pour si après, on sait très bien qu'on ne peut pas prendre l'enfant en charge.
Quel est votre avis sur l'avortement ?
Légalement, l'avortement est... Et quelque chose qui a été adopté il y a déjà très très longtemps et je trouve que c'est une très très bonne idée qu'il y ait l'avortement.
Je trouve que c'est une bonne chose quoi. Je veux dire si par exemple exemple typique une fille qui pourrait se faire violer, je comprendrais très bien qu'elle a envie d'avorter donc je trouve que chacun est libre de faire ce qu'il veut donc mon avis c'est que c'est plutôt une bonne chose.
L'avortement. Je suis pas pour, je suis pas contre. Ça sûrement les situations, c'est dû à, par exemple, à un viol, forcément, si c'est pas désiré, on peut pas obliger une femme à garder un enfant, même si on peut pas obliger une femme à garder un enfant, elle est responsable de son corps. Même si ton copain il veut un enfant, que t'es tombée enceinte, que t'en veux pas, t'es libre de ton corps de dire j'ai pas envie d'avoir d'enfant aujourd'hui.
Quel est votre avis sur l'avortement ?
C'est un droit, chacun fait ce qu'il veut. Rappelons que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est légale depuis le 17 janvier 1975, grâce à la ministre de la Santé, Simone Veil, et aux nombreuses mobilisations de femmes. Malgré toutes ces avancées, le sujet est encore tabou. Et beaucoup de femmes vivent le parcours de la combattante pour accéder à l'avortement. Avez-vous déjà eu des problèmes à la pharmacie avec la pilule du lendemain, pour votre copine ?
Non, j'ai toujours fait ce qui était nécessaire.
Non, du tout.
Oui, il m'est arrivé d'aller à la pharmacie chercher avec une de mes ex-copines la pilule du lendemain. Et je dois avouer que c'est quand même un soulagement aussi, faut pas se mentir, parce qu'on est, souvent dans l'urgence de vouloir remédier à ça. Et je trouve que c'est quelque chose de bien pour pouvoir accorder la pilule du lendemain.
Est-ce que vous avez déjà eu des remarques ?
Non, je n'ai pas eu de remarques. Je n'ai pas eu de remarques. Mais il est possible d'avoir senti peut-être un regard plein de jugement dans les yeux de la pharmacienne.
Oui. Quand j'habitais encore sur l'île avec une ex-copine, On était des jeunes petits foufous et on a décidé de ne pas mettre de capote comme ça peut arriver. Et puis du coup on s'est dit ah ça craint quand même. Et donc le lendemain on est allé à la pharmacie prendre la pilule du lendemain. Faut jamais faire ça, c'est pas bien. Et la dame qui nous a servi, en fait elle était anti avortement, machin, tout ça, donc elle a pas voulu nous servir. Donc on a dû aller dans une autre pharmacie. Et en plus on a été jugé de ouf parce qu'elle faisait exprès de parler fort pour bien que tout le monde entende qu'on venait chercher ça.
Avez-vous déjà eu des problèmes à la pharmacie avec la pilule du lendemain ?
Alors moi, en tant que garçon, non. En tant que professionnel de santé, non plus. Parce que j'ai déjà été amené à aller chercher la pilule du lendemain pour des jeunes filles au sein de l'établissement. Et je n'ai jamais eu de problème.
14 ans, première fois je m'en rappelle. J'ai des crampes au ventre. Une merde, tous les mois c'est pareil. Il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes.
C'était un extrait de musique intitulé On s'habitue de Angèle.
Vous pensez des femmes qui ne veulent pas d'enfants, justement ?
Ça dépend de leur situation. Enfin, je veux dire, s'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas.
C'est leur choix. Et s'ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants, c'est qu'ils n'ont pas envie d'en avoir. Et je respecte ce choix.
C'est leur choix.
Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne veulent pas d'enfants ?
C'est pas un problème. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps ou... s'il veut un enfant ou pas, donc...
Que c'est totalement leur droit, absolument. Et que je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut et de ne pas avoir surtout à se justifier. Et encore moins pour une femme.
Une femme a le droit d'avoir un enfant comme elle le souhaite, et ce n'est pas un critère, en fait. Le fait d'avoir un enfant n'est pas un critère propre à une femme. Si une femme veut avoir un enfant, elle le peut. Si elle n'a pas envie, elle a le droit d'avoir une vie sans enfant. Il n'y a aucune obligation à cet endroit-là.
Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne veulent pas d'enfants ?
Aucun problème, chacun fait ce qu'il veut.
Oula, moi je pense que les femmes, elles font ce qu'elles veulent et qu'elles ont tout à fait le droit de ne pas vouloir d'enfants.
C'est leur choix. Et je respecte le choix des autres. Et des femmes.
Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne veulent pas d'enfants ?
C'est pareil, en tant que soignant, on peut pas trop dire. Après, ça reste propre à chacun. On peut l'entendre vis-à-vis de... du monde dans lequel on vit aujourd'hui, voilà. Mais sinon, j'ai pas trop d'avis sur le sujet.
Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne veulent pas d'enfants ?
C'est leur droit de pas vouloir d'enfants. Aujourd'hui, avec la vie est tellement compliquée, très chère et difficile, qu'assumer un enfant, c'est pas toujours évident.
Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne veulent pas d'enfants ?
Elles font ce qu'elles veulent. Une femme n'est pas obligée d'avoir un enfant.
Avez-vous des conscience des violences durant l'accouchement et lors de la consultation gynécologique ?
Alors non, parce que je suis un homme, pour l'instant un jeune homme. J'essaie d'imaginer, mais je pense quand même que la femme doit souffrir quand même beaucoup.
Ah oui, oui. On sait que certains gynécologues ou certains praticiens en profitent pour faire des attouchements à la femme, donc... Faut dénoncer, faut pas que ça reste tabou.
Avez-vous conscience des violences durant l'accouchement et lors des consultations gynécologiques ?
Je vous avoue que c'est une question à laquelle je n'ai pas été sensibilisé. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir de grandes douleurs lors de l'accouchement. Et vous m'apprenez qu'il y en a, qu'apparemment il y a beaucoup de douleurs chez le gynéco. Donc non, je n'ai pas entendu parler de ces questions-là.
Non, je n'ai pas conscience des douleurs qui sont faites lors de ces moments. C'est vrai que je pense que c'est encore un débat qui est... c'est une question qui est nouvelle, alors que je pense que le problème est là depuis longtemps. Mais c'est bien de poser cette question-là, parce que je pense qu'on n'a aucun débat autour de ça.
Pas vraiment. Vous me l'apprenez, là. Enfin, si, j'ai déjà vu de temps en temps qu'il y avait un gynécologue qui abusait de son pouvoir. Il y avait eu déjà des viols ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est extrêmement répandu ou pas. Donc je suis pas très très au courant de la chose. Non.
Avez-vous conscience des violences durant l'accouchement et lors des consultations gynécologiques ?
Alors, durant l'accouchement, je m'en rends pas trop compte. Par contre, pendant les séances gynécologiques, oui, je m'en rends compte parce que justement, cette même ex-copine, quand elle a été pour la première fois voir un gynéco, ça s'est très très mal passé. Et elle a même été traumatisée après, pendant plusieurs années, elle a pas pu aller voir de gynéco.
Alors, j'en avais pas conscience depuis ces derniers temps. Cependant, après documentation et suite à des plaintes qui ont été faites de par des femmes lors de consultations gynécologiques, j'ai pris conscience, chose que je n'avais pas avant. Donc oui, j'ai pris conscience de cette violence par rapport à ça, oui.
Donc ouais, j'en ai conscience, enfin j'en ai entendu parler, on en parle beaucoup en ce moment, il y a eu pas mal d'affaires là-dessus. Après, moi en tant que femme, j'ai pas eu à subir ces choses-là. Et donc effectivement, s'il y a violence, va falloir changer beaucoup de choses dans la législation et dans l'encadrement de tous ces actes. Voilà.
Avez-vous conscience des violences durant l'accouchement et lors des consultations gynécologiques ?
Justement, tout d'abord, que signifient les violences gynécologiques ? Selon un document publié le 16 septembre 2019 par l'Assemblée parlementaire, les violences gynécologiques sont les violences dont peuvent être victimes les femmes lors de consultations gynécologiques. Elles se retrouvent en position relativement vulnérable et peuvent être victimes de sexisme, d'humiliation ou de violences physiques lors d'examens. Ce n'est pas normal. Le fait d'être une femme est difficile. On a déjà peur de marcher dans la rue, d'aller dans le métro ou encore de passer dans les petites ruelles. Et maintenant, on devrait avoir peur de consulter des médecins ? Nous allons vous lire un témoignage extrait du site Les Femmes.
J'ai passé une échographie cet été. J'étais enceinte de 3 mois et demi. Je m'allonge, l'échographiste, un sage-femme, pose la sonde, regarde les battements cardiaques en quelques secondes. Puis, d'un seul coup, sans rien dire, après quelques secondes donc, frappe mon ventre avec la sonde d'une violence inouïe. Il me donne une dizaine de coups. Je crie que c'est horrible. Il arrête 2-3 secondes, puis recommence. Une dizaine d'autres coups, absolument atroce. Nous voyons la tête de notre bébé frappée, violemment secouée. Il a fait cela tout simplement parce que le bébé n'était pas du tout, pas tout de suite positionné. Il n'a pas voulu attendre. Mon mari a filmé l'échographie. L'échographie est très parlante. La violence a choqué et choque tous les médecins qui l'ont vu par la suite. On voit parfaitement la tête de mon bébé complètement secouée, frappée. Après l'échographie, je sentais plus mon bébé bouger comme avant. Les petits coups bien perceptibles ne l'étaient plus, comme si mon bébé n'avait plus de force. J'ai tout de suite pensé qu'elle allait mourir ou être gravement handicapée. C'était une petite fille. Je ne la sentais presque plus, pour ensuite ne plus la sentir du tout. J'ai voulu mourir. Notre petite fille est bel et bien décédée, mais nous ne l'avons su qu'un mois et demi plus tard.
Alors oui, nous allons porter plainte, car nous avons la chance d'avoir cette vidéo. D'autres femmes enceintes ont été traumatisées par le même sage-femme. Mais cet interne pense à tort qu'il est échographiste et qu'il sait ce qu'il fait. Et puis sans vidéo, sans preuve, comment prouver l'acte barbare dont elle a été victime ? Et après cela, que faire ? Prier pour ne pas avoir un bébé handicapé ou pour ne pas avoir un bébé mort ?
Moi, c'était mon 4e bébé. J'ai l'habitude de faire des échographies. J'ai su dès le départ que cette souffrance et cette violence infligée n'était pas normal et que le liquide amniotique ne peut pas protéger de coups aussi intenses directement portés à l'abdomen. Il fallait que les patientes défilent, une écho toutes les 10 minutes, au bout d'une journée ça fait beaucoup de chèques. Le temps c'est de l'argent, donc cet échographiste n'a tout simplement pas voulu attendre que mon bébé se retourne normalement. Il faut que cette violence se sache. Non, le liquide amniotique ne peut pas tout protéger et ce n'est pas un voyou qui m'a fait cela. C'est un échographiste en qui j'avais confiance. Même si je ne le connaissais pas, parce qu'on fait confiance au corps médical, j'ai donc offert ce que j'avais de plus précieux. Si j'avais vu un voyou voulant me porter des coups de sonde dans le ventre, j'aurais protégé mon ventre. Mais là, je l'ai offert, j'ai fait une confiance aveugle.
Depuis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines. Y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seule avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine,
Mon amour, tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Je te pardonne pour mon cœur fracassé, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait, je te pardonne d'avoir tout niqué, je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens conne.
C'était un extrait de musique intitulé Je te pardonne de Oshi.
Dans ce témoignage volant, violent, on peut imaginer la souffrance que ce couple a dû endurer. Parce que son soi-disant échographiste n'avait pas le temps, c'est horrible. Un bébé a perdu la vie pour une question de temps.
Il ne s'agit pas simplement d'actes physiques, d'actions. La violence passe par d'autres canaux, l'attitude du personnel, l'infantilisation, la grossophobie, le manque de respect. Cela passe aussi par ces gynécos qui oublient de vous prévenir et d'informer de ce qu'ils vont faire.
La première chose et la plus évidente est de dire stop. La seconde est de travailler en amont. 90% des femmes ne savent pas avec qui elles accoucheront. D'avoir confiance en soi et de prendre pleinement conscience que ce n'est pas parce qu'un médecin est médecin qu'il a la science infuse. Il doit vous proposer et non pas vous obliger. Aussi, vous avez le droit de demander un autre gynécologue ou une autre sage-femme. Dans le cas d'un accouchement, n'oubliez jamais que c'est votre corps, votre accouchement.
Quoi qu'il en soit, n'oublions jamais que les violences obstétricales ne concernent pas la majorité des accouchements. Et heureusement, il existe des professionnels particulièrement à l'écoute, bienveillants et compétents. Pour autant, le sujet nous concerne toutes et tous.
Merci d'avoir écouté cette chronique. C'est avec plaisir d'avoir participé. Je vais donc maintenant laisser la parole à Amy, Zoé et Victoire.
Merci Léna. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dédié aux femmes qui est un sujet assez fort, les agressions sexuelles et le viol. Dans cette chronique, vous allez entendre quelques témoignages de personnes qui ont subi cette atrocité. Avant chaque commencement, nous vous préviendrons pour ne pas vous forcer à écouter si jamais c'est quelque chose de douloureux pour vous. Tout d'abord, nous allons vous présenter les définitions et les questions.
En effet, il est important de cerner le sujet et distinguer l'agression sexuelle du viol. Mais quelle est la définition exacte d'une agression sexuelle ? Ça consiste en quoi ?
Une agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Par exemple, des attouchements. Pour qu'il y ait agression sexuelle, il faut qu'il y ait eu un contact physique entre la victime et l'auteur des faits.
Et maintenant, que signifie ce mot si fort, le viol ?
Le viol désigne tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, selon les sources du site Information Violence Sexuelle.
Mais alors pourquoi parle-t-on de culture du viol ?
La culture du viol, c'est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'aptitudes partagées au sein d'une société qui minimise, normalise, voire encourage le viol. Nous pouvons constater cette culture dans les publicités qui sont sexualisées, telles que pour le savon, la lingerie, le dentifrice. Attention, nous allons aborder un témoignage. Si ceci est trop douloureux pour vous, vous pouvez quitter et revenir plus tard.
Témoignage de femme incroyable que nous avons trouvé sur Balance ton port. Violée par l'homme qu'elle pensait être l'homme de sa vie.
L'amour rend aveugle.
C'est une phrase que l'on entend souvent, mais dont on ne mesure pas le sens. Elle est tombée amoureuse d'un garçon lorsqu'elle avait 18 ans. Les premiers mois sont toujours les plus beaux, mais un jour tout s'écroule. Il lui dit être en dépression, il la quitte, mais continue de la garder sous son emprise, car il avait compris qu'elle était naïve et que malgré tout, elle l'aimait toujours autant. Arrive le mois de mars 2018, il dit se sentir mieux et souhaite qu'ils se remettent ensemble. Puis tout va très vite, une dispute, elle tente d'arranger les choses, son ego prend le dessus, alors il la viole. Il l'a violée pour
se venger
du sujet qui les a conduits à se disputer. Il avait prémédité son crime, il lui avait dit de vive voix
« Si tu n'étais pas venu chez moi pour essayer d'arranger les choses, c'est moi qui serais venu et je t'aurais violée. »
Il faut 3 jours pour le dire à ses parents, 3 longs jours de déni, puis elle se trouve assise en face d'une policière pendant 2 heures afin de lui raconter dans les moindres détails ce qu'il lui a fait ce 13 mars 2018. Elle nous confie cette phrase.
Un viol, c'est une mort psychique et une dispute ne mérite pas de se terminer par un tel crime.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais.
Maintenant, nous allons vous donner des éléments supplémentaires.
Le viol et les agressions sexuelles sont des crimes punis par la loi passible de prison. Le viol est punissable jusqu'à 15 ans de prison et l'agression sexuelle jusqu'à 5 ans. Une plus forte amende. Le viol et les agressions sexuelles touchent principalement les femmes, les adolescentes et les petites filles, tout ce qui touche au sexe féminin. Et pourquoi ce sont les femmes? Car longtemps dans les mœurs, la femme a été considérée comme un objet reproducteur. Cette façon de penser est restée longtemps dans la tête des gens et encore dans la tête de certains hommes, ce qui explique en quelque sorte pourquoi nous sommes agressés.
Mais qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucune raison valable pour agresser ou violer une femme ou un homme. Pour appuyer notre démarche, nous avons cherché les chiffres. Et ceci parle d'eux-mêmes. En France, entre 50 000 et 90 000 femmes ont été violées. Et de nombreuses victimes n'ont pas dénoncé leur viol. Sur 1 200 filles âgées de 16 à 17 ans, interrogées lors d'une étude effectuée à Paris, 20% ont répondu avoir été au moins une fois abusées sexuellement. Et parmi tous ces chiffres, plein d'autres viols n'ont pas été dénoncés par peur des représailles ou des complications. Les agressions sexuelles sont aussi très présentes, que ce soit dans les transports en commun, dans les transports privés, dans les établissements scolaires, dans les lieux de travail, dans la rue, et je pourrais continuer de vous en citer pendant des heures.
Mais vous nous direz sûrement pourquoi une si grande différence entre les chiffres. Car certains viols et agressions ne sont pas connus des services de défense. Les filles et femmes concernées se sentent sales et coupables. Elles préfèrent donc se tenir dans le silence des plus profonds. Car malgré que nous sommes en France, il faut bien comprendre que le système français est défaillant. Si ces femmes savaient qu'on les prendrait au sérieux, que ça ne serait pas classé sans suite, beaucoup plus de plaintes seraient déposées.
À présent, voici à nouveau un témoignage qui peut heurter à votre sensibilité.
Nous allons lire un témoignage trouvé sur le site de Combini d'une jeune femme qui a été victime de violence. Après une soirée entre collègues, la jeune femme surnommée Clara est déposée à République, une place connue de Lille, pour rentrer chez elle. Elle repère au loin un homme accossé contre un mur qui l'accoste.
Le relou de base,
se dit Clara. Elle ne lui répond pas et veut continuer sa route, mais l'individu l'insulte et les violences débutent.
Il m'a attrapé le bras super fort, il m'a retourné d'un coup et il a sorti une seringue et m'a piqué la fesse. Quand j'ai senti la piqûre dans mes fesses, je me suis dit c'est la fin.
Clara sent aussitôt des effets.
Je commence à avoir chaud, à ne pas me sentir bien, à avoir une espèce de nausée.
Décrit-elle, se sentant comme anesthésiée.
J'ai senti mon corps partir et me lâcher.
Elle se rappelle avoir été saisie par le cou, plaquée contre le mur, déshabillée. Les souvenirs sont ensuite plus flous. Clara est parvenue à retourner chez son amie.
Elle m'a dit tu avais les yeux vitreux, je ne te reconnaissais même pas.
La police est contactée, Clara est prise en charge par les pompiers, puis à l'hôpital, le diagnostic tombe vite. Elle a été droguée, la trace de piqûre a bien été repérée. En revanche, aucun examen gynécologique n'a été pratiqué. Aucune trace de violence, hormis la piqûre, n'a été constatée non plus. Ce n'est que plus tard, le lendemain soir, que Clara voit apparaître des bleus partout sur son corps qu'elle prend en photo.
Quelques jours après, j'ai des flashs qui me sont remontés.
Poursuit Clara.
Je me suis rappelé qu'il n'avait pas pu me pénétrer avec son sexe, mais qu'il avait eu le temps de me pénétrer avec ses doigts.
La prise de conscience de ce viol est extrêmement douloureuse.
Je me suis mise à vomir, à pleurer, à crier.
Clara a déposé plainte, ce qui nous a été confirmé par le parquet de Lille, indiquant qu'une enquête est ouverte pour
agression sexuelle avec administration d'une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Incapable d'en parler à sa famille, Clara finit par briser le silence et raconte les conséquences de ce drame.
J'ai peur du noir. Quand il fait nuit, je suis en stress total.
Clara n'ose désormais plus sortir le soir ou rentrer à pied. Elle exprime aussi une détestation de son corps. Clara nous alerte enfin sur un phénomène inquiétant, celui des vers drogués au GHB.
On entend parler de tellement de choses, même pas forcément de piqûres. En ce moment, c'est une catastrophe. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne le prennent pas au sérieux.
Quand on parle du viol, il ne faut pas oublier de parler de l'inceste. Qu'est-ce que l'inceste ?
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille, sur la personne d'un mineur, par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin, d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
C'est le témoignage d'une jeune femme de 21 ans qui a subi un viol incestueux à l'âge de ses 15 ans. En 2015, cette jeune femme a subi un viol par le père de son petit copain qui était le meilleur ami de ses parents.
Je me suis jamais sentie aussi sale, mon corps me dégoûtait.
Cette jeune femme pratiquait le twirling bâton depuis toute petite, c'était sa passion.
Et même le fait de devoir me mettre en juste corps me rendait malade.
Cette jeune femme a préféré se taire pour ne pas briser sa famille et celle de son petit ami. Mais elle nous dit
« Je me suis brisée moi-même, j'étais tellement remplie de haine que j'ai fait du mal à tout le monde autour de moi. »
Cette jeune femme a tellement été mal qu'elle a fait énormément de mal à ses parents et ses sœurs. C'est au bout d'un an qu'elle décide d'en parler à une amie de sa mère. Suite à ses confidences, tout s'est accéléré. Elle en a tellement voulu à ses parents d'avoir déposé plainte
qu'elle leur a fait énormément de mal. Elle savait que s'ils faisaient ça, c'était pour son bien, mais le simple fait de devoir répéter encore et encore sans fin ce qu'elle avait subi la démolit. Et voilà le moment de la garde à vue, où il a été retenu, puis ensuite le moment des confrontations. L'enquêtrice a tout tenté et son avocate également. 6 longues heures et malheureusement rien. Il n'a jamais baissé la garde.
Même le jour de l'audience, le procureur et la présidente savaient que je ne mentais pas.
Malheureusement pour cette jeune femme, sans aveu et preuves scientifiques, il n'a pas pu être condamné.
Aujourd'hui, j'essaie de me reconstruire. La naissance de mon fils m'a redonné le goût à la vie. Même si le chemin est encore long et que je manque énormément de confiance en moi par rapport à mon traumatisme, j'avance petit à petit. Merci de nous avoir écoutés sur ce thème qui est un thème pour nous très important, étant toutes les trois des jeunes femmes de 17 ans. Ce sont des choses auxquelles nous sommes confrontés tous les jours et nous ne devrions même pas aborder le sujet car ça ne devrait même pas exister. Mais tant que ça dure et que la société ne change pas, il faut continuer à en parler. Numéro très important à retenir, 3919.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi.
Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés sur ces différents sujets. Nous laissons à présent la parole au public s'il y a des questions.
Alors moi, je vais me lancer du coup pour une première question. Ah non, il y en a une, pardon. Vas-y.
Alors, je me permets, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. Félicitations pour votre travail, votre engagement et le partage que vous venez d'effectuer ce matin. Je pense que c'est rare et qu'on en a tous encore besoin. Donc, félicitations à vous.
Merci. Merci.
Moi, j'avais une question un peu générale pour vous toutes. Voilà, un peu nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de parler de ça. Qu'est-ce que vous mettez comme importance dans ce sujet, dans ces sujets, et de manière générale dans ce festival Battement d'Ailes. Voilà, en quoi c'est important pour vous.
Je commence. Bah, pour moi, le sujet de la femme. Enfin, là, à l'heure actuelle, on devrait continuer parce que les sujets qu'on a abordés, pardon, m'ont simplement touché parce qu'on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez, on n'en parle pas tout court. Et le fait qu'on nous propose ça, ça m'a tout de suite pris. Voilà. C'est réponse, oui.
Moi, je pense qu'on a fait ce choix parce que pour nous, comme nous sommes des femmes, on devait répondre aux questions et aux sujets aussi qui ne sont pas assez abordés, comme pendant la grossesse, le viol et les contraceptions. C'est pas assez abordé et on ne nous explique pas assez les procédures ou autres pour se protéger envers les autres ou même pour nous.
C'était important pour moi parce que on est les femmes de plus tard, donc il faut que la société elle change maintenant, sinon ça ne changera jamais.
Alors j'ai espoir que toutes ces mains courantes des femmes deviennent vraiment des plaintes aujourd'hui. Et je voulais aussi féliciter toutes les femmes qui ont le courage déjà de porter à la lumière leur drame. Voilà, parce que tous les jours, il y en a. J'en ai côtoyé beaucoup aussi. Et malheureusement, il n'y a pas assez de plaintes parce que tout tourne autour de la main courante. Donc il faut aussi retravailler beaucoup sur l'accompagnement des femmes et puis leur porter aussi une vraie épaule, un vrai soutien. C'est très important. Et puis j'ai entendu aussi le problème des soins donc, par rapport à la grossesse. Alors, très concerné par ce problème. Heureusement, tous les médecins, ou tout radiologue ou échographe ne sont pas tous les mêmes. Donc après, il y a un gros travail aussi de dialogue avec tous ces médecins pour faire comprendre que une grossesse, ça doit être accompagné, écouté, et c'est pas seulement un soin. Voilà, je vous remercie.
Donc moi j'ai une question très importante de la part des filles juste ici, et donc moi je trouve cette question aussi très importante. C'est bien de nous demander en tant que nous, public, ce qu'on en pense, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont choqué dans ce que vous avez dit, tout simplement?
Ok, pourquoi c'est toujours moi qui réponds? Tous les témoignages sont choquants, en particulier le dernier sur l'inceste. Et la grossesse, ça me choque et on ne devrait pas avoir à le subir, en fait. Malheureusement, il y en a beaucoup trop qui le subissent. Du coup, voilà. Oui.
Les témoignages, ils ont tous été importants, tous étaient graves. Mais c'est, quand on va dans Google, on écrit témoignage d'une femme violée, ou on ne devrait même pas trouver de recherche. Enfin, on devrait rien trouver déjà de base.
Les témoignages qu'on vous a présentés, ils peuvent vous paraître forts, mais sachez très bien qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui arrivent, qui ne sont pas forcément dites aux yeux de la justice pour éviter les représailles. Là, ce qu'on vous a présenté, c'est même pas la moitié de ce qui se passe en vrai.
Donc, et si je peux avoir une remarque pertinente concernant les gynécologues, moi, je trouve ça particulièrement anormal qu'on ait principalement des gynécologues garçons. Parce que moi, je trouve que c'est pas approprié, tout simplement, qu'un garçon, aujourd'hui, s'approprie le corps d'une femme, alors que ce devrait être justement l'inverse. Parce que les femmes, eux-mêmes, connaissent mieux l'autonomie d'autres femmes. Alors que nous, en tant qu'hommes, on est obligé de faire des études pour connaître ça, on va dire, normalement. Alors que eux, c'est tout simplement naturel.
Alors, si je peux me permettre de réagir par rapport à ça. Je suis pas sûre que toutes les femmes connaissent extrêmement mieux l'anatomie du corps féminin que les hommes. Je pense que les collègues, les profs ici pourraient dire, je pense que ça date de seulement quelques années qu'il y a l'anatomie du clitoris en entier dans les manuels scolaires, par exemple. Et pour cette question de homme médecin, femme médecin, c'est vrai que c'est un débat qui revient souvent sur la table. Alors moi, j'ai entendu les deux versions. J'ai entendu, je trouve que les gynécos, quand c'est des hommes, c'est mieux parce que justement, comme ils savent pas ce que c'est, ils font plus attention. Et j'ai entendu l'inverse, que si c'était des femmes, comme elles savent ce que c'est, elles font plus attention. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment lié au fait que ce soit un homme ou une femme, le médecin. C'est un peu lié à qui est le médecin, ce qu'il ou elle a envie de créer comme relation de soins. Et donc encore une fois, évidemment, c'est loin d'être la majorité des médecins qui sont comme ça. Ceci étant, quand il y a des violences, et on en entend quand même assez parler, alors sans aller jusqu'au viol, ça a été dit là dans l'émission par les jeunes élèves, ça peut être tout simplement le fait que quand on met un spéculum, on vous prévienne pas. Ça peut être vu comme une violence, par exemple. Et donc ça, effectivement, moi, dans ce que j'ai pu entendre autour de moi, ça peut arriver autant avec une femme qu'avec un homme.
Attends. Pour rebondir sur ce que Lubin il a dit, moi, les deux mauvaises expériences que j'ai vécues avec des gynécologues, enfin mes ex, c'était avec des femmes, en fait. Les deux fois où ça s'est mal passé, c'était avec des femmes, et après, elles sont allées voir des hommes, et ça s'est vachement mieux passé.
Comme je disais, je suis très concerné par la matière. Il faut savoir que depuis quelques années, les sages-femmes ont maintenant la possibilité de passer leur diplôme de gynécologie pour faire les échographies. Donc il y a aussi maintenant cette formation, un très gros travail d'accompagnement de la femme. Après, malheureusement, on aura toujours aussi des personnes qui n'ont pas ce relationnel qui est demandé pour ces soins. Mais il y a de plus en plus de sages-femmes, femmes, qui se forment justement à l'échographie parce que leur métier, c'est d'être auprès de la femme. C'est vraiment accompagner la femme. Et quand vous écoutez bien les actualités, quand elles revendiquent quelque chose, c'est souvent parce qu'elles veulent que les soins de la femme soient écoutés, soient accompagnés. Voilà, je vous remercie.
Alors, actuellement, qu'est-ce qui a changé par rapport au niveau de la femme? Qu'est-ce qui change actuellement depuis 2-3 ans dans la société française?
Vous savez, je suis pas sûre de mes sources, mais les salaires déjà, ils ont augmenté un peu pour la femme comparé aux hommes. Après, on évolue encore et on continue d'évoluer. Enfin, voilà. Réponse oui.
Alors, je vais demander à une personne de témoigner, parce que j'ai remarqué quelque chose. Et cette personne se trouve juste à côté de moi. Si vous le voulez bien, monsieur Koja, je vous voyais ému. Est-ce que vous pourrez témoigner de pourquoi vous êtes ému?
Bah, disons que, oui, je vois à ce que tu fais référence. C'est vrai que le sujet que vous abordez ce matin est particulièrement intéressant. Et en fait, la question du viol que vous avez pu avoir est une question qui est vachement démocratisée. Quand vous dites que 20% des femmes, effectivement, se sentent concernées, je pense que c'est le cas. Moi, j'ai eu une expérience, pas moi directement, mais j'ai eu un proche, en fait, qui a été condamné pour viol. Et c'est vrai que c'est difficile à admettre. Mais en fait, au même titre que les victimes peuvent être n'importe qui, le violeur également. Et c'est très important de reconnaître que ce soit un enfant, que ce soit un mari, que ce soit un père, que ce soit un ami que vous reconnaissez, le viol est un crime. Et il doit être condamné.
Eh bien, merci beaucoup.
Alors je propose que cette émission se termine tranquillement. S'il y a encore une ou deux questions, on peut les prendre. Et puis après, si ça vous va, on peut conclure.
Alors moi, pour conclure et pour rebondir notamment sur une question des acquis des femmes aujourd'hui, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a énormément de droits qui ont été acquis par les femmes au cours de l'histoire. Et que c'est pour ça qu'il est important de discuter de tous ces sujets-là, parce qu'il y a d'autres droits qui vont être acquis. Et je pense qu'il ne faut, il faut pas s'arrêter aussi sur nos acquis, puisqu'il y a certains droits dans d'autres pays qui régressent. Donc c'est important de continuer à sensibiliser les gens sur ce sujet-là. Et c'est aussi pourquoi on fait ce festival et on prend des temps d'échange avec vous pour bien se battre pour que nos droits en tant que femmes et en tant qu'humains perdurent aujourd'hui, enfin, continuent à évoluer aujourd'hui et dans le futur.
Merci. L'émission est terminée. Vous pouvez la retrouver sur le site de Micro Rebelle. En espérant que cela vous a plu, on se quitte en musique avec Sheila et son titre « Si j'étais un homme ». Bye bye.
Parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne,
deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. 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 Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme. On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. 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 Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme.